Bonheur chimique. Les sociologues distribuent des questionnaires sur le bien-être pour établir ensuite des corrélations avec des facteurs socio-économiques comme la richesse et la liberté politique. Les biologistes utilisent les mêmes questionnaires, mais établissent des corrélations avec des facteurs biochimiques et génétiques. Leurs conclusions sont troublantes. Pour les biologistes, notre univers mental et émotionnel est régi par des mécanismes biochimiques façonnés au fil des millions d'années de l'évolution. Comme tous les autres états mentaux, notre bien-être subjectif n'est pas déterminé par des paramètres extérieurs tels que le salaire, les relations sociales ou les droits politiques, mais par un système complexe de nerfs, de neurones, de synapses et de diverses substances biochimiques comme la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Gagner au loto, acheter une maison, décrocher une promotion ou même trouver le grand amour n'a jamais rendu personne heureux. La seule et unique chose qui rende les gens heureux, ce sont les sensations plaisantes du corps. Quelqu'un qui vient de gagner au loto ou de trouver l'amour et saute de joie ne réagit pas réellement à l'argent ou à l'objet de son amour, mais aux hormones qui font ribote à travers son système sanguin et au déchaînement des signaux électriques entre les différentes parties de son cerveau. Malheureusement pour ceux qui espèrent créer le paradis sur Terre, notre système biochimique interne paraît programmé pour maintenir le bonheur à des niveaux relativement constants. Il n'y a pas de sélection naturelle pour le bonheur en tant que tel. La lignée génétique d'un ermite heureux s'éteindra avec la transmission à la génération suivante des gènes de deux parents anxieux. Bonheur et misère ne jouent un rôle dans l'évolution que dans la mesure où ils encouragent ou découragent la survie et la reproduction. Dès lors, il n'y aurait pas lieu de s'étonner que l'évolution nous ait façonnés pour n'être ni trop malheureux ni trop heureux. Elle nous permet de jouir d'une poussée momentanée de sensations agréables, mais celle-ci ne dure jamais éternellement. Tôt ou tard, elle reflue et laisse place à des sensations déplaisantes. Par exemple, l'évolution a assuré des sensations plaisantes pour récompenser les hommes qui répandent leurs gènes en ayant des rapports sexuels avec des femmes fécondes. Si la sexualité ne s'accompagnait pas de ce plaisir, peu d'hommes s'en donneraient la peine. Dans le même temps, l'évolution a veillé à ce que ces agréments retombent rapidement. Si les orgasmes duraient éternellement, les mâles très heureux mourraient de faim faute d'intérêt pour la nourriture et ne se donneraient pas la peine de chercher d'autres femmes fécondes. Certains chercheurs comparent la biochimie humaine à un système d'air conditionné qui garde la température constante, que survienne une vague de chaleur ou une tempête de neige. Les événements peuvent bien changer momentanément la température, le système d'air conditionné ramène toujours la température au même point fixe. Certains systèmes d'air conditionné sont réglés à 25 degrés, d'autres à 20 degrés. Les systèmes de bonheur conditionné diffèrent aussi d'une personne à l'autre. Sur une échelle de 1 à 10, certains naissent avec un système biochimique allègre qui permet à leur humeur d'osciller entre 6 et 10, pour finir par se stabiliser à 8. Une personne de ce genre est parfaitement heureuse, qu'elle vive dans l'aliénation d'une grande ville, perde tout son argent dans un crash boursier ou se découvre diabétique. D'autres sont affligés d'une biochimie lugubre qui oscille entre 3 et 7 et se stabilise à 5. Une telle personne reste déprimée même si elle jouit du soutien d'une communauté soudée, qu'elle gagne des millions au loto ou qu'elle a une santé de champion olympique. En fait, jamais notre triste sire ne pourra dépasser le niveau 7 de bonheur, même s'il gagne 50 millions le matin, découvre le remède du sida et du cancer à midi, fait la paix entre Israéliens et Palestiniens dans l'après-midi et le soir, retrouve son enfant disparu des années plus tôt. Quoi qu'il arrive, son cerveau n'est pas fait pour l'exaltation. Pensez un instant à votre famille et à vos amis. Probablement en connaissez-vous qui sont toujours relativement joyeux, quoi qu'il arrive. Mais d'autres sont d'éternels ronchons, indépendamment des cadeaux que le monde dépose à leurs pieds. Nous avons tendance à croire que nous serions les plus heureux du monde si seulement nous changions de travail, nous nous marions, nous terminions ce roman, achetions une voiture neuve ou remboursions notre hypothèque. Mais si notre désir est comblé, nous ne semblons pas le moins du monde plus heureux. Acheter une automobile et écrire un roman ne change en rien notre biochimie. Tout cela peut la secouer un instant, mais elle ne tardera pas à retrouver son point fixe. Comment concilier cela avec les données psychologiques et sociologiques indiquées plus haut, par exemple que les gens mariés sont en moyenne plus heureux que les célibataires. Pour commencer, il s'agit de corrélation. La relation de causalité peut être à l'opposé de ce que certains chercheurs ont supposé. Certes, les gens mariés sont plus heureux que les célibataires ou les divorcés, mais cela ne signifie pas nécessairement que le mariage engendre le bonheur. Il se pourrait bien que le bonheur soit la cause du mariage, ou, plus justement, que la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine poussent au mariage et le soutiennent. Ceux qui naissent avec une biochimie joyeuse sont généralement heureux et satisfaits. Ils font des conjoints plus attrayants et ont donc plus de chances de se marier. Ils sont aussi moins susceptibles de divorcer, parce qu'il est beaucoup plus facile de vivre avec un conjoint heureux et satisfait qu'avec un partenaire déprimé et frustré. Dès lors, il est exact que les gens mariés sont plus heureux que les gens seuls. Mais une femme seule, encline à la morosité par sa biochimie, ne serait pas nécessairement plus heureuse si elle mettait le grappin sur un mari. En outre, la plupart des biologistes ne sont pas des fanatiques. Pour eux, le bonheur est essentiellement déterminé par la biochimie, mais ils admettent que des facteurs psychologiques et sociologiques ont aussi un rôle. Notre système d'air mental conditionné garde une certaine liberté de mouvement à l'intérieur de frontières prédéterminées. Il est presque impossible de franchir la barrière émotionnelle la plus haute et la plus basse, mais un mariage ou un divorce peut avoir un impact dans l'entre-deux. Qui est né avec un niveau moyen de bonheur de 5 ne dansera jamais dans la rue. Mais un bon mariage peut lui permettre de se hisser de temps à autre au niveau 7 et d'éviter le marasme du niveau 3. Si nous acceptons l'approche biologique du bonheur, l'histoire n'a qu'une importance mineure, puisque la plupart des événements historiques n'ont eu aucun impact sur notre biochimie. L'histoire peut changer les stimuli externes qui font sécréter la sérotonine. Elle ne change pas les niveaux de sérotonine qui en résultent et ne saurait donc rendre les gens plus heureux. Comparez un paysan français du Moyen-Âge à un banquier parisien moderne. Le paysan vivait dans un gourbi sans chauffage qui donnait sur la porcherie. Le banquier loge dans un luxueux penthouse pourvu des gadgets les plus récents et avec vue sur les Champs-Élysées. Intuitivement, on s'attendrait à ce que le banquier soit beaucoup plus heureux que le paysan. Or, gourbi, penthouse ou Champs-Élysées ne déterminent pas vraiment notre humeur. La sérotonine, si. Quand le paysan du Moyen-Âge acheva la construction de son gourbi, ses neurones sécrétèrent de la sérotonine, la portant au niveau X. Quand en 2013, le banquier paya la dernière échéance de son merveilleux penthouse, ses neurones sécrétèrent une même dose de sérotonine, la portant à un même niveau X. Le cerveau n'a pas conscience que le penthouse est bien plus confortable que le gourbi. La seule chose qui importe, c'est que la sérotonine est maintenant au niveau X. En conséquence, le banquier ne serait pas un iota plus heureux que son quadrisaïeul, le paysan pauvre du Moyen-Âge. Cela vaut pour la vie privée, mais aussi pour les grands événements collectifs. Prenez l'exemple de la Révolution française. Les révolutionnaires avaient de quoi s'occuper. Ils coupèrent la tête du roi, donnèrent la terre aux paysans, proclamèrent les droits de l'homme, abolirent les privilèges et firent la guerre à l'Europe entière. Mais rien de tout cela ne changea la biochimie des Français. De ce fait, malgré tous les chambardements politiques, sociaux, idéologiques et économiques produits par la Révolution, son impact sur le bonheur des Français fut modeste. Ceux qui avaient gagné une biochimie enjouée à la loterie génétique étaient tout aussi heureux avant la Révolution qu'après. Ceux qui avaient hérité d'une biochimie morose se plaignirent de Robespierre et de Napoléon avec la même aigreur qu'ils se plaignaient avant de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Mais alors, quel bien a fait la Révolution française ? Si les gens n'en sont pas devenus plus heureux, à quoi rime tout ce chaos, la peur, le sang et la guerre ? Jamais les biologistes n'auraient pris la Bastille. Les gens pensent que telle révolution politique ou telle réforme sociale les rendra heureux, mais leur biochimie ne cesse de leur jouer des tours. Il n'y a qu'un seul développement historique qui ait une réelle importance. Aujourd'hui que nous comprenons enfin que les clés du bonheur sont entre les mains de notre système biochimique, nous pouvons cesser de perdre notre temps en combats politiques et réformes sociales, en putsch et en idéologie, pour nous focaliser plutôt sur la seule chose qui puisse nous rendre vraiment heureux, manipuler notre biochimie. Si nous investissons des milliards pour comprendre la chimie du cerveau et mettre au point des traitements appropriés, nous pouvons rendre les gens bien plus heureux que jamais, sans nécessité d'une quelconque révolution. Le Prozac, par exemple, ne change pas le régime, mais en relevant le niveau de sérotonine, il arrache les gens à leur dépression. Rien ne résume mieux l'argument biologique que le fameux slogan New Age « Le bonheur commence en soi ». Argent, statut social, chirurgie plastique, belle maison, pouvoir, rien de tout cela ne vous apportera le bonheur. Le bonheur durable ne saurait venir que de la sérotonine, de la dopamine et de l'ocytocine. Dans Le meilleur des mondes, le roman dystopique qu'Aldous Huxley publia en 1932 à l'apogée de la Grande Dépression, le bonheur est la valeur suprême et les médicaments psychiatriques remplacent la police et le scrutin au fondement de la politique. Chaque jour, chacun prend sa dose de Soma, un produit de synthèse qui rend les gens heureux sans nuire à leur productivité et à leur efficacité. Il n'y a pas de guerre, de révolution, de grève ou de manifestation pour menacer l'État mondial qui gouverne la Terre entière parce que tout le monde est suprêmement satisfait de ses conditions présentes, quelles qu'elles soient. La vision d'Huxley est bien plus troublante que celle du 1984 de George Orwell. Le monde d'Huxley paraît monstrueux à la plupart des lecteurs. Mais il est difficile d'expliquer pourquoi. Tout le monde est heureux tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sens de la vie. Le monde déconcertant d'Huxley repose sur l'hypothèse biologique que bonheur égale plaisir. Être heureux, ce n'est ni plus ni moins qu'expérimenter des sensations physiques plaisantes. Notre biochimie limitant le volume et la durée de ces sensations, il n'y a qu'un moyen de faire en sorte que les gens connaissent un niveau élevé de bonheur sur une longue période, c'est de manipuler leur système biochimique. Certains chercheurs contestent toutefois cette définition du bonheur. Dans une étude célèbre, le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a demandé aux gens de raconter une journée de travail typique, épisode par épisode, en précisant chaque fois à quel point ils en concevaient plaisir ou déplaisir. Dans la façon dont les gens voient leur vie, il a découvert ce qui a tout l'air d'un paradoxe. Prenez le travail qu'implique d'élever un enfant. Kahneman observe que si l'on compte les moments de joie et les moments fastidieux, on a l'image d'une affaire assez déplaisante qui consiste largement à changer les couches, faire la vaisselle et affronter des crises de rage, toutes choses que personne n'aime faire. Et pourtant, la plupart des parents déclarent que leurs enfants sont leur principale source de bonheur. Est-ce à dire que les gens ne savent pas vraiment ce qui est bon pour eux? C'est une possibilité. Une autre est que ces conclusions démontrent que le bonheur n'est pas l'excédent de moments plaisants sur les moments déplaisants. Le bonheur consiste plutôt à voir la vie dans sa totalité, une vie qui a du sens et qui en vaut la peine. Le bonheur a une composante cognitive et éthique importante. Pitoyable esclave d'un bébé dictateur ou éducateur affectueux d'une vie nouvelle, ce sont nos valeurs qui font la différence. Celui qui a une raison de vivre, disait Nietzsche, peut endurer n'importe quelle épreuve ou presque. Une vie qui a du sens peut être extrêmement satisfaisante même en pleine épreuve, alors qu'une vie dénuée de sens est un supplice, si confortable soit-elle. De tout temps, dans toutes les cultures, les gens ont éprouvé le même type de plaisir et de peine, mais le sens qu'ils ont pu attribuer à leurs expériences a probablement varié amplement. Dès lors, l'histoire du bonheur pourrait bien avoir été beaucoup plus troublée que ne l'imaginent les biologistes. Et cette conclusion n'est pas nécessairement au bénéfice de la modernité. Évaluée minute par minute, la vie au Moyen-Âge était certainement rude. Toutefois, si les hommes croyaient à la promesse d'une félicité éternelle après la mort, leur vie pouvait leur paraître bien plus riche de sens et précieuse qu'aux modernes sécularisés qui n'ont d'autre espoir à long terme qu'un oubli total et vide de sens. À la question « Êtes-vous satisfait de votre vie dans son ensemble ?», Les gens du Moyen-Âge auraient sans doute apporté une réponse très positive dans le questionnaire sur le bien-être subjectif. Nos ancêtres du Moyen-Âge étaient-ils donc heureux parce qu'ils trouvaient un sens à la vie dans des illusions collectives sur l'au-delà? Oui. Tant que personne ne ruina leur chimère, pourquoi pas? D'un point de vue scientifique, pour autant qu'on puisse le dire, la vie humaine n'a absolument aucun sens. Les hommes sont le résultat de processus évolutifs aveugles qui n'ont ni fin ni but. Nos actions ne relèvent pas d'un plan divin cosmique. Si la planète Terre devait sauter demain matin, probablement l'univers suivrait-il son cours comme à l'ordinaire. Pour autant qu'on puisse le dire à ce stade, la subjectivité humaine ne manquerait pas. Dès lors, tout sens donné à la vie n'est qu'une illusion. Chercher un sens à sa vie dans l'au-delà, comme au Moyen Âge, n'était pas plus illusoire que de le trouver dans l'humanisme, le nationalisme ou le capitalisme à l'instar des modernes. L'homme de science qui dit que sa vie a du sens parce qu'il augmente le savoir humain, le soldat qui déclare que sa vie a du sens parce qu'il se bat pour défendre sa patrie, et l'entrepreneur qui trouve du sens dans le lancement d'une nouvelle société, ne s'illusionnent pas moins que leurs homologues du Moyen Âge qui trouvaient du sens dans la lecture des Écritures, les croisades ou la construction d'une nouvelle cathédrale. Peut-être le bonheur consiste-t-il alors à synchroniser ces illusions personnelles de sens avec les illusions collectives dominantes. Dès lors que mon récit personnel est au diapason des récits de mon entourage, je puis me convaincre que ma vie a du sens et trouver mon bonheur dans cette conviction. C'est une conclusion très déprimante. Faut-il vraiment s'illusionner pour être heureux ?